France Culture.
Je vais vous jouer juste le thème du troisième mouvement du concerto opus 5 numéro 2 en La majeure de Joseph Boulogne, chevalier de Saint-Georges, qui est un rondo. Je vais vous jouer le thème du troisième mouvement du concerto opus 8 en sol majeur, qui est aussi un rondo. Ces extraits représentent vraiment des thèmes assez simples, mais qui restent dans la tête. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'interprète Saint-Georges en concert, les gens me rechantent ces thèmes. On pourrait se dire de manière un peu arbitraire que c'est un peu la pop de l'époque. C'est-à-dire, il a trouvé vraiment des airs qui, bah, je dirais, je pourrais dire universels, mais en tout cas, la technique, la manière de faire en sorte que ce soit toujours accessible au public.
Voici les chefs d'orchestre, avec Saint-Georges dirigeant les premiers mouvements de sa symphonie en sol majeur. Musique!
Ça va péter.
Romuald Grimbert-Barré, peut-on dire du chevalier de Saint-Georges qu'il est le Mozart noir?
Alors, je pense que c'est une manière assez efficace d'être attiser la curiosité envers le chevalier de Saint-Georges. Après, quand on connaît ces personnages, autant Mozart que le chevalier de Saint-Georges, je trouve ça dommage de s'arrêter à cette description, parce que Saint-Georges, je dirais, n'a pas le génie musical qu'avait Mozart, et Mozart n'a pas la virtuosité qu'avait le chevalier de Saint-Georges.
Il y a eu un très très beau tableau peint par un peintre qui s'appelle Robineau. On voit le prince de Galles et la cour plein de gens, des maîtres d'armes et Déon. Déon en robe, oui, puisque il a fini sa vie en femme. Et Saint-Georges. Saint-Georges plus jeune que Déon. Et bon, la légende veut que ce soit le chevalier Déon qui ait gagné. Et on dit que Saint-Georges se serait laissé toucher aussi. Il n'aurait pas insisté. C'est un galant homme. C'était pas un escrimeur professionnel, hein. C'était sa passion. C'était un musicien avant tout. Donc, sa devise, c'est « La musique élève l'âme, l'escrime la trempe ».
Est-ce que vous connaissez, François Rostin, l'expression « appeler la cavalerie de Saint-Georges » ?
Ah ben non du tout.
Le chevalier de Saint-Georges, la comète noire des Lumières. Un documentaire de Federico Polo Devoto et Somanina. Qui est le chevalier de Saint-Georges ? La légende évoque bien un chevalier de Saint-Georges qui tua le dragon dans un combat symbolisant la lutte du bien contre le mal. Mais plus près de nous, au temps des Lumières, un autre chevalier de Saint-Georges a existé. Cavalier émérite, danseur agile, tireur adroit, et surtout, musicien virtuose, grand compositeur, escrimeur hors pair et colonel de régiment. Un homme au destin hors du commun dont on peine aujourd'hui à reconstruire la légende.
On ne sait même pas s'il est né quelque part. Il ne figure sur aucun registre de catholicité puisqu'il n'est pas baptisé.
Alain Guédé, biographe de Saint-Georges.
L'Église ne baptisait pas les mulâtres. Ne pas oublier que le mot mulâtre, c'est un mulet à corps humain, le mulâtre. C'est un animal utilitaire pour devenir esclave. Alors sa mère était une esclave qui avait été raflée, semble-t-il, jeune, autour de 16 ans, au Sénégal, et amené en Martinique. Et on leur donne un prénom qui était un matricule. Hein. Aux yeux des planteurs, c'était comme l'étiquette qu'on fixe sur l'oreille des vaches. Hein. Donc on la prénomme Anne, diminutif Nanon. Elle était très belle. Saint-Georges dit d'elle que c'était le plus beau cadeau que l'Afrique ait fait à la France.
Les enfants, à la naissance, suivent le statut juridique de leur mère.
Frédéric Régent, historien.
Et on sait que Nanon est esclave lorsqu'il a 2 ans, donc son statut juridique, c'est l'esclavage. Alors, l'union illégitime, c'est quelque chose de complètement commun. Enfin, pratiquement tous les propriétaires d'esclaves ont une concubine esclave ou libre de couleur. La plupart des maîtres affranchissent une femme esclave. Et lorsqu'on regarde la couleur des enfants, on voit que ces enfants sont probablement les enfants du maître. Donc là, on est vraiment dans le plus commun du fonctionnement de la société coloniale.
Cette figure de la mère qui est tout à fait intrigante.
Claude Ribbe, biographe de Saint-Georges.
Et les relations entre ce fils qui, à un moment, est très lancé dans le monde, et puis cette mère qui passe pour une espèce de gouvernante, une espèce d'employée de maison, mais qui n'est pas vraiment une employée de maison, c'est quelque chose de très intéressant. Et on peut imaginer la gêne, peut-être, que Saint-Georges pouvait avoir, et puis aussi le bonheur d'avoir sa mère, malgré ses origines, malgré sa couleur, pas très loin de lui.
Évidemment, comme tout enfant de grand planteur, il a eu, dès son enfance à Guadeloupe, un enseignement académique, et l'épée notamment, la musique, ce qui était obligatoire dans les plantations. Les enfants devaient apprendre la musique, les enfants d'esclaves. Chaque propriété avait son petit orchestre composé d'enfants d'esclaves. Et le cheval, bien évidemment. De sorte que quand il arrive à Paris, il a déjà des dispositions tout à fait remarquables.
On a un père qui est visiblement l'appui, le soutien. Enfin, il a de toute évidence envie que son fils perce, comme on dirait familièrement, dans le domaine où il est le doué, l'escrime, puisqu'il l'inscrit dans les bonnes écoles, mais aussi pour ce qui est de la musique. Il faut faire échapper Saint-Georges à sa condition d'homme de couleur. Il faut qu'il puisse venir s'accomplir à Paris. Donc son père lui a permis d'échapper à un destin qui peut-être aurait été funeste.
Les esclaves sont ipso facto émancipés dès qu'ils mettent le pied sur le sol français. Donc, à supposer que son père n'ait pas accompli cette tâche avant, lui, il arrive, il est libre.
En 1778, un recensement est réalisé. On estime peut-être 10 000 personnes de couleur. Alors, c'est vrai que 10 000 sur un royaume de 28 millions d'habitants, c'est pas beaucoup. Ceci dit, un officier de police du Châtelet écrit dans les années 1770 qu'il y a trop de Noirs à Paris, il y a comme une sorte d'invasion, alors que bon, ils doivent être quelques milliers à Paris, sur une population de 400 000 habitants. Mais voyez, le fait qu'il soit visible, et certainement lorsqu'il s'installe, il se regroupe dans les mêmes quartiers, fait que il y a ce sentiment qu'ils peuvent être nombreux. On a des traces aussi qui montrent que ces personnes sont vues comme une concurrence de travail, Voilà, c'est toujours la même chose.
Les personnes de couleur sont obligées de se déclarer. Alors je cite de mémoire, je crois que c'est en 1762 qu'a lieu la déclaration et de la mère et du fils. Et la situation de Saint-Georges est particulièrement voyante parce que il est connu, il est déjà talentueux et il a une apparence qui laisse clairement deviner ses origines. Donc il est dans l'ambiguïté à un moment où la situation se durcit. Donc on peut imaginer, quand il est obligé de se déclarer à Paris dans une situation qui est assez confortable, parce que bon, il fait partie quand même des privilégiés, on voit bien qu'il y a une difficulté. Et cette difficulté, on la note en particulier par la manière dont il est déclaré par son protecteur, son maître d'armes, en faisant bien comprendre qu'il est un jeune homme de qualité.
François Rostin, maître d'armes.
Alors, dans la notice historique sur Saint-Georges, il dit « L'homme le plus extraordinaire qu'on ait pu peut-être jamais vu dans les armes, et même dans tous les exercices du corps, fut sans doute le fameux Saint-Georges. On pourrait lui appliquer ce que l'Arioste dit de Zerbin, la nature le fit et rompit le moule. » Il savait tout faire, c'est hallucinant. Donc, je cite toujours la Boissière. Saint-Georges était parvenu à la taille de 5 pieds 6 pouces, qui est à peu près environ 1m78. Très bien fait, doué d'une force de corps prodigieuse et d'une vigueur extraordinaire, vif, souple, mince, élancé, il étonnait par son agilité. Jamais personne dans la leçon n'a déployé plus de grâce, plus de régularité. Il avait un développement superbe. Juste une parenthèse, le développement, c'est la fente. Sa main soutenue au plus haut le rendait toujours maître du faible de son adversaire. Son pied gauche, solidement établi, ne variait jamais et sa jambe droite restait constamment perpendiculaire. Cette réunion de moyens lui procurait ce bel aplomb qui le facilitait à se relever d'un seul temps et à repartir aussitôt avec la vitesse de l'éclair. C'était une vedette. Vraiment, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait une technique formidable, qui était un travailleur, qui avait une vitesse de main époustouflante. Il pouvait passer de la main droite à la main gauche après une parade, voilà. Et surtout, il avait ce qu'on appelle en escrime le sens de l'à-propos. Il avait le sens de la mesure. La mesure en escrime, c'est la distance pour toucher l'adversaire ou le partenaire. Et il avait cette intuition formidable.
Alors, c'était un garçon qui avait le devoir d'être élégant. C'est ça, je crois que son père le lui a bien fait comprendre. Il avait un devoir absolu, c'est se faire accepter. Il lui est arrivé de devoir se faire respecter. On dit qu'il a fessé avec des boisseaux de fleurer un type qui s'était mal comporté à son égard, un autre il l'a basculé cul par-dessus tête, il lui a fait faire le tour de la salle d'armes. Il était très musclé, très félin, il fallait pas lui chercher querelle, quoi. Une autre fois, il se promène dans la rue, un type qui le traite de mal blanchi, il se retourne, il lui court après, il le poursuit, il l'arrête, il lui plonge la tête dans le caniveau, et il lui dit en partant, bon, maintenant te voilà aussi mal blanchi que moi, quoi.
Ma, attention, messieurs de la Boissière va donner sa leçon. Musique!
J'aimerais bien être une petite souris pour savoir comment ça se passait. Dans cette académie, ils avaient un enseignement un peu comme actuellement à l'INSEP pour les jeunes gens qui font les études sportives. Donc il y avait le matin musique, équitation avec les meilleurs maîtres d'équitation, mathématiques, etc. Et l'après-midi, escrime.
Il est clair que Saint-Georges, comme ses camarades, a vocation à être pas trop loin du roi, à devenir officier. Alors pour devenir officier, on fait du sport. Il faut très bien monter à cheval et être capable d'accomplir même des prouesses équestres. Donc ça, on sait qu'il est habile dans ce domaine.
À partir de 1764, il devient gendarme de la garde du roi. Ça fait un emploi du temps assez chargé. Comment est-ce que peuvent s'organiser les journées du chevalier ?
Cette vie d'officier, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais c'est plutôt du bon temps. On est près de la cour. On parade, j'imagine, dans son bel uniforme pour les revues. On est plutôt là, je pense, pour le prestige plutôt que pour faire la guerre. Donc la position de Saint-Georges, qui est jeune encore, en tant que gendarme de la garde, c'est une position de prestige. Et on peut imaginer que ça lui laisse tout le loisir possible pour se donner entièrement à ses deux passions. L'autre aspect de ses talents, alors qui est en plus pas du tout incompatible d'ailleurs avec l'éducation d'un jeune noble, c'est la musique. Et là, il dépasse ce qu'on est censé attendre d'un aristocrate qui peut jouer de la musique. Lui, c'est un virtuose et c'est carrément une passion. Et puis, il a cette envie, c'est clair, de non seulement d'être un instrumentiste, mais de composer.
De Braun, on le voit dans une attitude très, très, très décontractée. C'est quelqu'un qui a des traits très fins, qui a le visage poudré, et la manière dont il tient son fleuret comme un archer. Parce qu'un fleuret, vous savez, quand on tient un fleuret, un assaut, les maîtres d'armes de l'époque, on dit toujours maintenant, il faut tenir son fleuret comme c'est une arme très légère, il faut tenir ça comme un oiseau, un petit oiseau. C'est-à-dire que si on le serre trop fort, on l'étouffe, si on le serre pas assez, il s'envole. Et l'archer, je pense, moi je suis pas violoniste, mais c'est exactement la même chose. On tient entre le pouce, l'index et le petit doigt.
C'est sûr que l'escrime requiert vraiment une discipline, une part de dextérité qui est essentielle au violon. Et donc on peut comprendre que les deux soient vraiment associés dans le personnage du Chevalier de Saint-Georges, mais aussi dans sa musique. C'est presque le cliché qu'on peut imaginer, remplacer le fleuret par un archer. Mais en même temps... manier l'archer, c'est aussi quelque chose qui demande énormément de dextérité. Parfois, j'aime le comparer aussi au pinceau d'un peintre, hein, parce que voilà, tous les contours, toutes les articulations au violon et dans sa musique, c'est vraiment avec l'archer hein, que tout cela se produit. C'était un violoniste vraiment de très grande capacité. Hein. Et c'est bien sûr de l'époque de la musique galante, donc de l'époque classique, hein, c'est-à-dire entre le baroque et la période romantique. Et cette musique se caractérise justement par une certaine simplification du discours. Et bon, bien sûr, les deux compositeurs qui se distinguent de cette période, c'est Mozart et Haydn. Et je pense que le Chevalier de Saint-Georges a sa place en tant que violoniste virtuose et interprète. Et sa musique, justement, représente vraiment ce qu'on pouvait faire au violon, de plus impressionnant à cette époque. Je le comparais assez naturellement à d'autres compositeurs violonistes, je dirais même Paganini, durant la période romantique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a excellé dans l'écriture pour son instrument. Alors, c'est vrai qu'il a composé plusieurs opéras, mais c'est plutôt ce qui sort de la norme. Et même ses quatuors à cordes, parfois, on a l'impression que c'est des concertos pour violon. Parce que le premier violon a une partie extrêmement virtuose et les autres instruments ont plutôt de l'accompagnement. Là, donc, on sent qu'il y a toujours ce besoin de faire briller le violon. En fait, ça a l'air toujours simple et ça doit sonner très simple, mais la musique de Saint-Georges, ça ne coule jamais sous les doigts, en fait.
Romuald Grimbert-Barré, quelles ont pu être les influences musicales de Saint-Georges ?
Alors, clairement, j'irais la musique italienne, que ce soit Locatelli, Vivaldi. Jean-Marie Leclerc a été un de ses professeurs principaux. On sait que Gossec a été son professeur de composition, hein, principalement. Après, j'aimerais dire qu'il a eu des influences de ses origines antillaises, mais je ne peux pas retrouver ça directement sur ses partitions. J'irais d'exemple. Alors, c'est vrai qu'il y a certains mouvements un peu... J'allais comparer à Mozart, et ce n'est pas une bonne chose.
Musique !
Il devient très vite une vedette, une star au violon, un soliste formidable qui draine les foules. Naissent déjà à Paris des salles de plusieurs milliers de personnes et il remplit ces salles-là. Il déchaîne les passions par son art au violon et sa composition au violon. Et puis... Eh ben, il a une autorité naturelle, il en impose quelque part. Il a sans doute une énergie vitale qui est aussi très forte. Et donc, il est engagé au Concert des Amateurs, qui était le deuxième plus grand orchestre de Paris à ce moment-là, comme violoniste soliste.
Les amateurs, ça désigne ceux qui ne vivent pas de la musique.
Qui ne vivent pas de la musique, mais qui en ont le talent. Alors, il y a beaucoup de musiciens, de musiciens nobles. Les nobles ne travaillaient pas à l'époque. Donc, il y avait du temps pour faire de la musique. Et après avoir été batteur de mesure, donc le bras droit du chef d'orchestre qui était Gossec, il en prend la direction. Et il en fait, selon les critiques, le meilleur orchestre de France, sinon même d'Europe, dit-on. Donc c'est sans doute le meilleur aussi chef d'orchestre d'Europe, avec une certaine autorité. Puis, ça c'est les leçons de la Boissière, les leçons de papa. Il fait répéter ses musiciens comme jamais. Le Concert des Amateurs répétait 4 jours par semaine. Ça ne s'était jamais vu avant. Ces nobles qui normalement ne travaillaient pas, ils étaient présents. Alors ensuite, au moment des restrictions budgétaires très fortes prises par Turgot et ses successeurs, le Concert des Amateurs qui vivait de mécénat, Périclite, se crée un nouvel orchestre qui va être en fait extrapolé d'une loge maçonnique, la loge de l'Olympique, et qui vit de souscription. Et là aussi, Saint-Georges va donc prendre la direction de cet orchestre de la loge olympique, qui va aussi devenir le principal orchestre parisien, qui joue d'ailleurs dans le palais des Tuileries, dans l'ancienne salle des gardes. et souvent en présence de Marie-Antoinette, devenue reine, est née ainsi une complicité relativement brève, musicale, entre Saint-Georges et la reine. Personnellement, je pense que les premières œuvres composées par Saint-Georges, qui sont des œuvres pour harpe et clavecin, l'ont été pour Marie-Antoinette.
On sait que Marie-Antoinette était claveciniste, ils ont probablement joué ensemble, on peut tout à fait imaginer la scène avec Saint-Georges jouant du violon accompagné par la reine. Les relations entre Saint-Georges et Marie-Antoinette évidemment beaucoup fait fantasmer, parce que Marie-Antoinette à cette époque est une personnalité très en vue, hein, c'est une espèce de Diana du XVIIIe siècle, et puis bon, elle est aussi... l'objet de toutes sortes de critiques et d'allusions de nature sexuelle. Et donc, on peut tout à fait comprendre, quand on voit Diana avec les rockstars de son époque, on peut faire une analogie. Saint-Georges est une rockstar de l'époque, donc c'était flatteur pour la reine de se montrer avec Saint-Georges. Comment est Saint-Georges à cette époque? On a su, alors est-ce que c'est véritablement... certains, je ne sais pas, mais qu'il avait une très légère difficulté d'élocution, bégayait très légèrement. Bon, Saint-Georges, bien qu'il se soit défendu d'être beau, était quand même assez séduisant, si on en juge par le fameux portrait par Mather Brown. Est-ce que Marie-Antoinette pouvait être sensible au charme de Saint-Georges? Pourquoi pas?
Connaissez l'expression « appeler la cavalerie de Saint-Georges » Pardon, est-ce que vous connaissez une expression qui dit « appeler la cavalerie de Saint-Georges » à la rescousse?
Non, vous me surprenez.
J'ai personnellement établi un catalogue, puisqu'il n'en existait pas avant. Et donc, j'arrive actuellement, il s'enrichit régulièrement un peu plus, quoi, moins maintenant, puisqu'on a sans doute fait l'essentiel. Il s'établit à 324 œuvres. C'est moins que Mozart, hein, qui en a 300 de plus, moins que Haydn, qui en a encore beaucoup plus. Mais en termes de quantité, on est... dans la zone de Schubert. Donc Saint-Georges a beaucoup produit, en dépit d'une vie quand même un peu d'aventurier, malgré tout, quoi.
Son œuvre tourne principalement autour du violon. Il a écrit une quinzaine de concertos, et je dirais qu'il y en a à peu près 4-5 qui sont régulièrement joués. Bien qu'il ait écrit quand même des symphonies, hein, il en a écrit deux. Il a écrit aussi des œuvres pour voix, mais principalement voilà, des opéras, des œuvres pour clavier aussi. Les concertos, je trouve, les plus aboutis sont l'opus 8 en sol majeur. Après, il y a aussi le concerto opus 4 numéro 2, qui est très impressionnant et qui comporte des instruments avant. C'est ça qui est impressionnant parfois avec le chevalier de Saint-Georges, c'est soudainement dans le troisième mouvement, il y a un passage digne des concertos Paganini. Vraiment, je vous dirais que c'est d'une virtuosité extrême. Et on ne s'en rend pas forcément compte à l'écoute. Mais tout violoniste qui lit cette partition vous dirait « Oula, mais comment c'est possible de jouer ça ? Il faut démancher sur chaque note et sauter de corde à chaque fois. » Et c'est un rondo, donc on sait que ça se joue à une vitesse assez rapide.
Saint-Georges a franchi un certain nombre d'étapes, malgré la législation qui se durcit. Il faut imaginer quand même cette situation où on a un homme qui est un homme à la mode, qui probablement suscite des critiques, mais jamais frontales, parce que même s'il a laissé un peu de côté l'escrime, personne ne pourrait imaginer se mesurer à lui. C'était un expert dans l'art des salles d'armes, mais dans l'art des vengeances particulières. Et on y regarde à deux fois avant d'insulter, de provoquer quelqu'un qui peut vous tuer. Mais il y a un moment où les critiques vraisemblablement racistes à son égard vont arriver d'un côté où on ne les attendait pas. Elles vont arriver par les femmes. On va faire comprendre à Saint-Georges qu'il faut peut-être se calmer et que son ascension sociale, qui est assez réussie, que sa notoriété, qui est évidente, que sa proximité de Marie-Antoinette peut commencer à gêner. Et lorsqu'il est question de lui confier les clés de l'Académie royale de musique, là c'est l'opéra, c'est plus seulement l'opéra comique, c'est l'opéra, c'est-à-dire le genre noble, paraît excellent. Ça, c'est un peu trop.
Absolument scandaleux. Vous entendez, scandaleux, comment ça se passe? Un scandale. Imaginez-vous, un Africain.
Halte. Mais qui êtes-vous pour vous permettre d'interrompre ce spectacle?
Je suis Rosalie Levasseur, chanteuse à l'opéra.
Sophie Arnoux, également chanteuse à l'opéra.
Marie-Madeleine Guimard, danseuse à l'opéra.
Il semblerait que ce Saint-Georges s'apprête à diriger l'Académie royale de musique,
c'est-à-dire l'opéra.
C'est-à-dire nous. Notre honneur ne serait souffrir que nous soyons gouvernés par un...
Par un...
On lit chez les chroniqueurs de l'époque que ça a été une affaire qui a secoué le tout Paris intellectuel. Mais comment un noir à la tête de la plus prestigieuse institution culturelle du monde, pratiquement l'Opéra de Paris, c'était la référence absolue. C'était l'humiliation pour toutes les artistes et puis pour le public aussi. Et la polémique enfle. Des artistes menacent de faire grève, Marie-Antoinette prend peur, Louis XVI aussi, et finalement, elle renonce à le nommer. D'ailleurs, le poste reste vacant. C'est une décision de Louis XVI, vous voulez pas de Saint-Georges, eh bien, vous n'aurez pas de directeur.
Et Saint-Georges ne sera jamais ce qu'il aurait aimé être, le directeur de l'Académie royale de musique, ce qui sans doute lui aurait permis aussi de composer des opéras, plus seulement des opéras comiques, mais des opéras, et de les faire jouer. Le résultat de cette manœuvre, c'est que finalement, j'allais dire, c'est un haut fonctionnaire qui va prendre l'administration, ce ne sera pas quelqu'un de privé, donc on préfère personne à Saint-Georges.
On confie transitoirement le poste à l'intendant des menus plaisirs, qui était d'une glorieuse nullité, et l'opéra va péricliter très vite. Et pour Saint-Georges, ça va être une humiliation terrible, parce que c'était une star à ce moment-là. Hein. Il s'aperçoit qu'on l'aime, qu'on l'adule, etc., qu'on l'admire, mais que dès lors qu'il doit avoir un poste d'autorité sur une institution prestigieuse, ah ben non, non. Qu'un noir dirige des blancs, mais non, c'est pas possible. Des stars blanches. Et c'est très dur pour lui.
Ça marque un tournant et peut-être aussi le moment d'une apogée. Après, il y a certainement un déclin. Alors, il continue de composer, bien sûr, mais c'est quand même un mauvais signal et ça montre aussi le revirement d'une époque où le racisme est en train de s'imposer. Il va se développer pendant tout le 19e siècle. Mais bon, là, Saint-Georges est touché au cœur.
Et il devient un espèce de panache noir derrière lequel les modernistes vont défiler, si j'ose dire, quoi. Et le principal d'entre eux, c'est le duc d'Orléans, qui sera plus tard le révolutionnaire sous le pseudonyme qu'il s'était choisi de Philippe Égalité, qui, sans monter la révolution depuis longtemps, qui va souvent à Londres, très souvent, puiser des idées sur le modernisme de la monarchie parlementaire anglaise, et en ramène effectivement des projets qu'il présente régulièrement à son cousin Louis XVI et à Marie-Antoinette, projets qui se font tous rejeter, surtout par Marie-Antoinette. Et pour lui, l'échec de Saint-Georges, c'est le symbole d'un blocage d'une société qui un jour finira par exploser.
Il va prendre le parti d'Orléans. C'est pas rien de prendre le parti d'Orléans. C'est une faction qui est, on le sent bien, est en rivalité avec la cour. Mais là aussi, Saint-Georges ne sera jamais au niveau, probablement, où il souhaiterait être. Déjà, il est obligé d'avoir des mécènes, d'occuper d'autres fonctions. Par exemple, il est obligé de s'occuper des chasses. Alors probablement, ça ne lui déplaît pas, mais on lui crée des fonctions pour lui procurer des revenus. Il n'est pas complètement ce qui souhaiterait être, même pauvre comme Mozart. Quand la Révolution éclate, le chevalier de Saint-Georges est du côté du duc d'Orléans, très clairement. Saint-Georges a un rôle qui, vraisemblablement, ne va pas dans le sens de la continuité du régime existant. Est-ce que pour autant c'est un révolutionnaire Je dirais qu'il est un modéré. Il y a toujours probablement une nostalgie de la jeunesse qui fait qu'il ne peut pas s'engager résolument vers les extrémités de la révolution et surtout pas vers les extrémités de la terreur.
Il va fréquenter la société des gens de couleur, qui va être créé par le député de Saint-Domingue, Julien Raymond, pour aller dans un premier temps vers la reconnaissance des droits civiques pour les mulâtres, et dans un second temps, mais il n'y a pas l'unanimité dans la société, vers l'abolition. Et donc, fréquentant ces gens, il participe aux réunions qui se traduisent par la demande d'autorisation donnée aux mulâtres de pouvoir intégrer l'armée, qui n'était pas donnée.
C'est le moment de peut-être d'obtenir, par le prix du sang, des droits qui avaient été refusés pendant tout le XVIIIe siècle. L'esclavage est toujours en vigueur. S'il ne faut pas croire qu'en 1789... l'esclavage a été aboli. Au contraire, 1789, comme 1790, ça fait partie des plus belles années de la traite négrière du XVIIIe siècle. Dans tout ce contexte, il y a aussi une autre lutte qui est la lutte des hommes de couleur, qui eux ne veulent pas forcément l'abolition de l'esclavage pour la simple et bonne raison qu'ils ont des esclaves, hein, pour certains, qui sont à un certain niveau social qui fait qu'ils ont des propriétés, souvent ils ont hérité de leur père, donc ils sont dans cette situation, mais ils veulent d'abord l'égalité des droits. Pour obtenir l'égalité des droits, eh ben, il y a cette idée de Julien Raymond qui est de créer un régiment entièrement composé d'Américains au départ et d'hommes du Midi, la Légion franche des Américains et du Midi. Bon, les Américains, c'est les métis des Antilles ou les gens un peu plus fortement colorés, pas forcément trop métissés. Et puis les gens du Midi, bah, ce sont les gens, les subsahariens, qu'on dirait aujourd'hui.
Oui, oui, la Légion franche des Américains, oui, oui. Ça devait être extraordinaire, cette légion, avec tous ces gars-là. Il a insisté pour qu'ils apprennent l'escrime. C'était tous des métis, fils d'aristocrates, de grands bourgeois. Et vous imaginez, là, ces cavaliers, basanés, dans leurs beaux costumes rutilants, souriant avec et chargeant. Le mec en face devait être terrifié. Il avait un jeune lieutenant... qui s'appelait Dumas, Thomas Alexandre Dumas, qui a fini général. Voilà. Oui, 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 oui.
Pour la première fois, bien, c'est quelqu'un de couleur qui dirige cette unité. Il n'a pas vraiment les qualités militaires pour devenir colonel d'une légion, hein. Ce qui d'ailleurs provoquera certaines frictions avec son second, donc le Dumas, le futur général Dumas. Mais effectivement, là, le fait d'être un homme de couleur, tout de suite, ça le propulse à la tête de cette légion.
Est-ce que vous connaissez l'expression « appeler la cavalerie de Saint-Georges » ?
Non, je ne le connaissais pas.
Dumas et Saint-Georges se complètent. En vérité, ce régiment qui est formé, il est plutôt formé par Dumas. Saint-Georges est là sans être là, parce qu'il est en même temps il est autour de Dumouriez. On ne sait pas très bien où il est, en fait, à cette époque. Il continue probablement d'intriguer. Ça ne veut pas dire, comme l'a dit Alexandre Dumas, qu'il n'aimait pas trop le feu et qu'il était un peu lâche. Bon, c'est ce que Dumas explique, hein, au fond. Saint-Georges qui fait la guerre en dentelle, c'est probablement excessif. Mais enfin, Saint-Georges est occupé à tout autre chose que la guerre, même si il a très vraisemblablement participé au combat, mais il y a une dimension plus diplomatique, plus secrète, qui lui prend pas mal de temps. Et Dumas va être effectivement celui qui va s'occuper du régiment.
Son grand morceau de bravoure, bon, à part avoir quand même participé à quelques batailles, c'est qu'après la mort du roi, Dumouriez, le vainqueur de Valmy, révolutionnaire, mais resté fidèle à la personne du roi, on appelait ça les monarchiens pour une monarchie constitutionnelle, comme l'était par exemple Rouget de Lisle, va retourner les armes contre la Révolution et marcher sur Paris pour établir une régence. Invité à se joindre à ce coup d'État, Saint-Georges refuse, devance l'avant-garde de l'armée de Dumouriez, arrive jusqu'à Lille. À Lille, prévient la garnison et les maires, les habitants, qui, grâce à lui, cette tentative de coup d'État échoue. Le général qui commandait l'avant-garde de Dumouriez est arrêté et sera guillotiné pratiquement dès le lendemain à Paris. Et donc Saint-Georges, ce jour-là, par cet acte citoyen, sauve la République.
En avril 1793.
Oui.
Est-ce que l'expression « appeler la cavalerie de Saint-Georges », vous connaissez ?
Non. La cavalerie de Saint-Georges, appeler la cavalerie de Saint-Georges.
Sauveur, c'est très clairement Dumas, qui envoie en douce un cavalier avec le cheval le plus rapide possible à Lille pour prévenir que Miazgski est un traître et qu'il faut absolument l'arrêter et l'empêcher d'entrer dans l'île. C'est ce qui va se passer d'ailleurs. Peu de temps après, Dumas va se retrouver dans le bureau du ministre de la guerre, Bouchotte. Alors, fin de l'année 93, bon, on est en pleine terreur, il est arrêté et il passe probablement pas très loin de l'échafaud. Alors il est enfermé dans une maison loin de Paris, en tout cas à Andainville, du côté de Clermont-de-Loise. Saint-Georges est un suspect du fait de son passé, de tout ce qui lui a permis de devenir ce qu'il est, à savoir une star de l'Ancien Régime, joue contre lui. Il est dans une situation difficile. Déjà, il est destitué, il est arrêté. Je dirais pas que c'est le début de la fin pour Saint-Georges, mais en tout cas, c'est le commencement des ennuis, et puis c'est la fin des beaux jours pour lui. Après sa libération, Saint-Georges va multiplier les démarches pour obtenir ce qui est important pour lui à cette époque, un emploi et des revenus. Et donc, c'est une lutte pour survivre.
Il demande de retrouver son commandement. Son commandement lui est accordé. Manque de chance, la place était déjà occupée. Évidemment, il est resté 11 mois en prison par un colonel qui lui avait succédé et qui refuse de rendre la place. Après quoi, il va revenir à Paris, il va reprendre la direction d'un nouvel orchestre, celui du Cercle de l'Harmonie, et il retrouve à peu près le panache qu'il avait eu et l'audience qu'il avait eue auparavant. Sa dernière apparition publique montre combien il est redevenu une star. C'est pour le premier vol en montgolfière d'une femme qui décolle du parc Monceau devant des milliers de personnes. Et la foule attend devant ce grand ballon et attend l'arrivée de la jeune comédienne qui va faire ce premier vol. Elle arrive au bras d'un grand homme d'âge mûr avec laquelle elle fend la foule. C'est Saint-Georges. Et qui était resté un peu cabot, quoi, malgré tout.
C'est aujourd'hui que les prétends sur ce gazon ramènent les arêtes, chantent les oiseaux, que vos accents se mêlent au son de la misère, se mêlent au son de la misère, les jeux, les plaisirs.
C'est vrai qu'il y a un trou dans sa vie qui a beaucoup interrogé. On a dit qu'il était à Londres. Sans doute a-t-il pu y passer, mais dans ce cas, très peu de temps. On a parlé de la Martinique aussi. On a parlé des meutes à la Martinique, durant lesquelles il aurait été pendu.
Le témoignage de Louis Fusy laisse entendre qu'il serait allé à Saint-Domingue. Sous le directoire, les modes ont changé, la musique a changé, on n'est pas revenu, c'est le moins que l'on puisse dire, à l'Ancien Régime. Saint-Georges est un homme qui a brillé vers 1775. Donc 20 ans plus tard, c'est compliqué. C'est un has-been. Le chevalier décède, oui, en 1799. Est-ce qu'il meurt de chagrin? Est-ce qu'il meurt de tristesse? Est-ce qu'il meurt? Bon, il meurt de maladie chez un ami. Ça veut dire qu'il a conservé des amis. Il meurt à Paris.
C'est une première mort, et puis il aura une seconde mort symbolique quelques années plus tard avec le rétablissement de l'esclavage.
Absolument. C'est la première de décision de Bonaparte qui n'est pas encore Napoléon. Et après 8 ans de liberté pour les esclaves, difficile de penser qu'il aurait pu se remettre au travail sous le fouet, comme si rien ne s'était passé. Et le rétablissement de l'esclavage se fait dans des conditions terribles, terribles. Des massacres entiers, des chiens qu'on fait venir de Cuba, notamment à Saint-Domingue, pour manger les esclaves qu'on peut récupérer, des esclaves qu'on démembre complètement, on leur arrache les membres, on leur casse les os, enfin, ça, c'est affreux. Mais en France, il est hors de question de pouvoir imaginer que ces gens qu'on va remettre en esclavage dans les colonies sont doués de talents artistiques, littéraires ou autres, et commencent une purge énorme, notamment dans tout le répertoire théâtral, puisque sous la Révolution, une bonne partie des théâtres avaient célébré l'amour, l'amitié du blanc et du noir. Alors tout cela est purgé, et eh bien, la deuxième mort de Saint-Georges, c'est son œuvre qui n'est plus jouée. Donc la musique quitte le répertoire. Sa musique reste dans la nuit, quoi. Première fois qu'il sort du répertoire, c'est en 36. C'est Marius Casadesus qui joue un pastiche tiré d'un staccato pour violon de Saint-Georges, les caquets, et il enregistre. La chape de plomb retombe jusqu'aux années 70 où quelques orchestres ont joué du Saint-Georges.
La naissance du chevalier de Saint-Georges a commencé aux États-Unis dans les années, on va dire, 1970. Intérêt pour sa musique, mais aussi intérêt pour son parcours et intérêt pour son statut d'homme noir. Donc une certaine fierté de la part de certains activistes d'avoir un personnage pareil. Et tout ça va être amplifié avec l'enregistrement en France, des concertos pour violon, un peu dans le sillage de cet engouement nouveau, et puis les mouvements qui vont faire que la mémoire de l'esclavage va apparaître, tout ça à la fin des années 1990, amène évidemment à une mise en lumière de Saint-Georges.
Il faut savoir que Saint-Georges représente les Afro-Américains là-bas et qu'il est l'icône incontournable de toute une communauté qui veut remettre en avant les musiciens afro-américains sur le devant de la scène. Et donc, c'est même l'icône de certains festivals. Je pense à un festival en particulier, Call of Music. Et c'est sûr que donc il est représenté comme vraiment un exemple à suivre de réussite face à l'oppression. Et j'ai étudié aux États-Unis à partir de mes 16 ans. Et là-bas, j'ai été agréablement surpris de voir à quel point le Chevalier de Saint-Georges était représenté, même dans les cours d'histoire. Et j'ai pu aussi y trouver, dans la bibliothèque de l'université où j'étudiais, énormément d'œuvres rééditées du concerto que je ne pouvais trouver ici en France. Et je vous avoue que jusqu'à maintenant, c'est plus simple de retrouver des rééditions, donc avec quand même des corrections et tout un travail qui a été refait sur ces partitions là-bas, donc aux États-Unis, qu'ici en France, et c'est vraiment dommage.
Est-ce que vous connaissez l'expression « faire appel à la cavalerie de Saint-Georges » ?
Non.
Même lorsque les gens ne peuvent pas vous dire exactement qui était Saint-Georges, les gens vous disent que lorsqu'une une situation est absolument inextricable et qu'un problème est impossible à régler, et il suffit d'appeler la cavalerie de Saint-Georges.
Chevalier de Saint-Georges, la comète noire des Lumières. Avec Romuald de Grimbert-Barré, Alain Guédé, Frédéric Régent, Claude Ribes, François Rostin et l'aimable participation de Christiane Taubira. Documentation, Véronique Lefaleur. Documentation musicale, Marion Le Guyenne et Olivier Dé. Archivina, Ingrid Lecointe. Vous avez pu entendre des extraits du film Le Chevalier de Saint-Georges, un Africain à la cour, de Mathias Ledoux, mise en scène par Bartabas. Prise de son, Manon Moussin, Valérie Avalard, Grégory Wallon et Ludovic Auger. Mixage, Manon Moussin. Chargée de programme, Sandrine Chaperon. Coordination, Emmanuel Laurentin. Un documentaire de Federico Polo Devoto, réalisé par Somanina.